Cher lecteur, bonsoir, bonsoir David.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un livre dont beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, puisqu'il s'agit du dernier livre de Neige Sino, Triste Tigre, publié aux éditions POL. Alors c'est un livre très dur, David, qu'on n'a pas l'habitude de présenter, parce qu'en général, je, et toi aussi je suppose, préfère éviter ce genre de sujet pour ne pas tomber dans une forme de voyeurisme. Mais j'avais envie de commencer l'introduction de cette émission par une phrase qui résume peut-être tout à fait le livre. Je reprends les mots de Neige Sino. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'érotique chez un petit être aux genoux croûtés qui n'a pas encore perdu toutes ses dents, qui peut passer une heure à essayer d'attraper des lézards entre les pierres chaudes de l'après-midi? La réponse est d'une limpidité glaçante. L'innocence, c'est ça qu'il y a à voir la plus pure. Alors, on a tous compris, il s'agit d'une petite fille qui, pendant des années, a été abusée par son beau-père qui a surgi dans sa vie lorsqu'elle avait 7 ans, qui s'est remariée avec sa mère pour agrandir la fratrie. Ils ont eu 2 enfants en plus. Et cette famille a entamé une existence bohème et précaire sous les dehors d'une famille, je dirais qui donnait les aspects d'une famille idéale. Finalement, Neige Sino, pendant plusieurs années, a été abusée par son beau-père. Et c'est une personne qui force le respect de par sa résilience, par sa façon d'analyser son traumatisme. Et c'est en ça que le livre qui décrit l'inceste est un livre différent de ceux qu'on a l'habitude de retrouver. David, je te laisse peut-être...
Je vais rebondir sur ce que tu as dit, sur la question du sujet. Hein. C'est un livre à sujet.
Tout à fait.
Tu l'as déjà dit, c'est un sujet qu'elle connaît parce qu'elle a vécu. Mais là où c'est déroutant, c'est que c'est un livre à sujet et en même temps, ce n'est pas un livre à sujet pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de livres à sujet sur ce sujet-là qui mettent le lecteur en position de voyeurisme,
ouais,
de inconsciemment, de toute façon, comme une fascination morbide un peu, même inconsciemment. Il y a toujours quelque chose de sensationnalisme. Moi, j'ai des amis, je dis à des amis, ça parle de ça, ils n'ont pas envie. Parce qu'ils ont déjà... Et je trouve que, voilà, on est dans le sujet, mais en même temps, Neige Sino évite tout cela. Je trouve ce livre remarquable, d'une intelligence folle. Moi, je me demande si cette dame tellement brillante n'est pas à haut potentiel, parce qu'elle vit son sujet, mais en même temps, j'ai envie de prendre l'allégorie de la boxe. Elle boxe avec son sujet, elle se bat, et elle crée avec ça un livre, une œuvre unique qui ressemble à aucun autre livre. Ça brille par sa lucidité, par des réflexions qui vont beaucoup plus loin que le sujet. La forme, la profondeur, tout. C'est un chef-d'œuvre.
Alors, c'est vrai que cet ouvrage est difficile à classer dans un genre défini parce qu'il tient du récit, du témoignage, de l'autobiographie, de l'analyse, de l'essai, du carnet de lecture. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est une femme qui d'abord force le respect par sa résilience, par sa façon d'analyser son traumatisme, sans, comme je le disais, tomber dans le pathos. Et moi, j'ai eu par moments un peu de mal à suivre, parce qu'on sent qu'elle a beaucoup de choses à raconter, et ça va un petit peu dans tous les sens. Tout ce qu'elle dit fait bien sûr sens, est censé, je veux dire, mais elle est très difficile. Je dirais que c'est difficile de mettre une ligne dans ce livre. Alors, le livre est divisé en deux parties. Il y a la première partie qui se compose de portraits, dans lequel, et on va d'abord en parler un petit peu, elle fait le portrait de son beau-père, qu'elle essaye de comprendre, elle essaye de rentrer dans sa tête, elle essaye, sans pour autant s'apitoyer sur son sort, elle risque même l'empathie, parce qu'elle essaye de comprendre ses actes, elle le remercie d'avoir avoué son acte et ainsi d'autoriser sa condamnation, mais elle cherche aussi à comprendre Elle essaye de le comprendre objectivement. Elle essaye de comprendre sa mère, qui a vécu avec cet homme, qui l'a aimé, qui n'a pas vu les choses passer, qui pourtant, quand elle va lui avouer l'histoire, va bien entendu soutenir sa fille. Et puis, elle essaye également de s'analyser elle-même. Comme elle dit, « I'm damaged for life ». Et elle raconte, au fait, à travers le récit de cette enfance volée, elle nous raconte, au fait, ses réflexions autour de son statut de victime, du pédophile et de l'agresseur. Donc, cette première partie se concentre davantage sur les portraits. Et là, je trouve qu'elle est assez intéressante.
Oui, parce que, enfin, moi, j'ai mis dans mes notes la force et la hauteur. Alors, pour moi, la force, c'est de nous amener à voir l'horreur de près, mais en même temps, il y a une distance. J'ai l'impression d'être très proche et très loin, c'est très pudique. Et c'est cette bonne distance, hein, on ne va pas parler en tant que maître, mais la balle est bien placée pour voir se dire, tiens, je suis assez haut pour questionner
et pour pouvoir prendre le
sujet. Et même pour faire preuve d'empathie, désolé, hein, mais y compris envers son beau-père. Alors, je ne sais pas si empathie est le bon mot, mais elle questionne la notion d'empathie. Elle essaye à tout le moins de décrypter, à son âge maintenant, hein, n'a plus 7 ans, mais elle essaye de décrypter les raisons, les manipulations. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Et ça, ça n'a plus été fait depuis Lolita de Nabokov. Qu'elle cite d'ailleurs dans le
livre. Tout à fait. Il y a beaucoup de références littéraires d'ailleurs.
Il y a beaucoup de références. Il y a un truc moi qui me revient quand on parle de ça, c'est qu'elle dit. Enfin, c'est un livre très humain qui dit que les monstres, c'est de la fiction, ça n'existe pas, que les hommes monstrueux sont faits de contradictions et qu'ils existent. Et pouvoir dire ça, c'est très très fort.
C'est vrai qu'elle cite, donc il y a énormément de références à des auteurs anglais parce qu'elle précise qu'elle a été étudiante en littérature, je pense, anglophone. Et à la différence d'avec Nabokov, Nabokov racontait une histoire qui n'était pas la sienne. Et elle le précise bien dans le livre, alors qu'elle raconte finalement une histoire qui est la sienne. Et c'est vrai que son degré d'analyse, la façon d'essayer de se mettre dans la tête de sa mère, dans la tête d'elle, petite victime de 7 ans, et dans la tête de ce violeur, fait preuve finalement, ou est une preuve finalement, d'une certaine ouverture d'esprit et d'une remise en question. Alors moi, c'est surtout la deuxième partie qui m'a davantage intéressée et qui s'intitule « Fantôme ». Alors là, elle réfléchit à plein de choses. Et c'est cette partie-là qui, même si elle est plus forte, par moments, pour moi, va un petit peu dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'elle parle de plein de choses. Elle aborde, par exemple, le sujet du consentement chez l'enfant. Elle dit non, chez un enfant, il ne peut pas y avoir de consentement. Elle insiste sur ce point. Elle dit qu'un enfant qui ne résiste pas, qui ne s'oppose pas à son agresseur, n'est pas pour autant un enfant qui accepte. Son plaisir était de me donner du plaisir contre mon gré. Donc, c'est déjà un sujet qu'elle aborde, mais elle aborde d'autres sujets.
Elle aborde ça très concrètement. Enfin, elle met un exemple. Quand un enfant laisse sa porte de sa chambre ouverte, c'est parce qu'il a laissé ouvert et point à la ligne, et c'est tout.
Exactement.
C'est très concret.
Exactement.
Hein.
Mais elle nous parle aussi, par exemple, d'incarcération et de sa défiance envers la prison. Parce qu'elle dit que son beau-père, je crois, a été condamné à 9 ans de prison. Il n'en a fait que 5 parce qu'il s'est conduit comme un prisonnier modèle, comme la plupart des abuseurs sexuels. Elle dit, en fait, je ne crois pas dans la détention, dans l'incarcération, parce que celle-ci aliène les détenus et ne les prépare pas à la réintégration. Donc, c'est aussi un sujet qu'elle aborde.
Oui, elle pose des débats très intéressants. Moi, je trouve qu'on touche au chef-d'œuvre et je me suis posé la question pourquoi, surtout après la deuxième partie, pourquoi elle écrit ce livre? Parce qu'elle n'écrit pas... je me répète, mais elle évite
le pathos.
Le pathos, le sujet. Elle n'écrit pas pour se plaindre, ni pour dénoncer. Ça a déjà été fait. Enfin, Et je veux dire, pour l'instant, c'est fait 4 fois par an, quoi.
Ouais.
Elle a obtenu justice, ouais, juridiquement, ouais, mais alors se pose la question, ben, comme tu as dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, obtenir justice? Moi, je pense qu'elle écrit pour nommer l'innommable, pour essayer de penser avec les lecteurs quelque chose qui est impensable. Et là, on est dans une réflexion sur la littérature, ouais, quoi. Comment les mots peuvent se battre pour, comment expliquer, pour dire quelque chose qui n'est pas bien de dire, qu'on ne sait pas dire, mais qui participe à tenter de comprendre l'incompréhensible. Et alors, je crois que sans doute, elle écrit pour rester en vie.
Alors, je suis tout à fait d'accord, parce qu'elle parle justement de la littérature. Elle se pose la question, quel est le rôle de la littérature? Par quel biais peut-on raconter cette histoire? Elle qui se méfie des livres qui ont des sujets et qui ne croit pas au pouvoir thérapeutique de l'écriture, parce qu'elle le dit, elle dit que l'écriture ne sauve pas. Elle a peur que la seule chose qui m'arrive avec ce livre soit d'être invitée à des émissions de radio sur l'inceste, où l'on me demandera de résumer dans un langage encore plus simple que celui du livre ce qui est dit, afin que les auditeurs distraits et blasés n'aient pas à faire l'effort de le lire. Je ne souhaite pas qu'il y ait beaucoup de lecteurs, car ce serait une façon d'exister dans la littérature, non pas par mon écriture, mais par mon sujet, ce qui a toujours été ma hantise. Et donc, elle dit que le fait d'écrire lui permet, même si l'écriture ne sauve pas, ça lui permet d'accéder à quelque chose de plus haut, comme tu disais, de la libérer de cette douleur intense aussi. Et elle le dit d'ailleurs, la littérature nous délivre une forme de consolation sans pour autant nous sauver. La littérature n'est pas une thérapie en soi.
Oui, bon, elle a beau dire ça, alors je peux paraphraser Annie Ernaux qui dit d'elle-même « J'écris pour pas devenir folle ».
Ouais.
Mais je comprends très bien ce qu'elle dit, qu'elle veut pas être enfermée dans le sujet. Le fait de vouloir peu de lecteurs, ben, c'est parce qu'elle a envie que son livre soit... Je crois que ce qu'elle dit, c'est qu'elle a...
Les idées derrière et
oui,
pas pour le...
soit compris et pas ouais, être dans la case
bien
inceste.
Sûr.
Maintenant, sur la question d'avoir peu de lecteurs, c'est mal parti parce qu'elle a eu le prix littéraire du Monde, elle a eu le prix des Inrecuptibles et elle est en dernière sélection pour le Fémina et pour le Goncourt. Donc, on touche à vraiment quelque chose de très, très fort.
Moi, il y a aussi quelque chose que j'ai aimé, c'est que dans cette deuxième partie, elle questionne la langue. Elle dit « la langue en tant que telle nous oblige à dire des choses sans les enjoliver ». Et elle veut être dans la langue. Donc, elle dit à quel point aussi c'est important de parler. Parce que tant que le sujet n'est pas abordé, il n'existe pas. Et c'est ce qu'elle dit très bien. Elle dit, à partir du moment où j'ai décidé de parler, je me suis brûlée définitivement avec mon village, avec mes amis, avec les amis de mes parents, parce que j'ai parlé. Et à ce moment-là, le sujet, le problème existe.
Oui, ben là, tu as tout dit. Je crois que la forme hybride, bon, oui, ça prend tous les sens, tu l'as dit aussi, mais y a quand même, c'est quand même bétonné par une grande question. Moi, je la trouve fort axée sur la résilience.
Oui.
Tous les chemins qu'elle prend sont des sentiers différents pour comment acquérir personnellement la résilience, ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup d'autres féministes, comme Chloé Delhomme, par exemple, qui n'est pas résiliente. Et donc, là, il y a quand même un béton entre toutes ces lignes. Voilà, pour moi, c'est... Moi, j'ai plus grand-chose à dire. Pour moi, c'est un très grand livre. Il m'a fait une sensation... J'ai eu l'impression de lire beaucoup de livres.
En fait. Ouais.
Voilà, d'avoir
fait
le plein.
Une sorte de livre qui résume le...
D'avoir fait le plein. Et pour moi, c'est plus un livre sur la fonction de la littérature que sur l'inceste.
Je suis tout à fait d'accord.
Ce n'est pas un livre qui est beau, ce n'est pas un livre qui est tendre.
Ce
n'est pas un livre qui est méga bouleversant. Mais alors, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, à chaque phrase, il est juste, en fait.
Tout à fait. Alors, moi, il y a quand même un truc qui m'a touchée énormément, c'est qu'on sent une énorme honnêteté par rapport à elle-même, parce qu'elle avoue à quel point, dans cette deuxième partie, elle doit apprendre à vivre avec ce trauma, comment se construire. Et elle raconte aussi même, comme aujourd'hui, ce sujet est... omniprésent dans sa tête, elle ne fait même pas confiance en l'homme avec lequel elle vit et avec lequel elle a eu un enfant. Donc il y a une véritable, elle se met vraiment à nu et puis elle dit quelque chose qui n'a cessé de m'hanter parce qu'elle aborde le thème de l'image qu'elle projette aux autres. Elle parle de ce corps qu'elle considère monstrueux à ses yeux, qui attire, mais n'attire pas irrésistiblement la contemplation ou la tendresse, mais plutôt le besoin de s'en saisir de toutes les manières possibles, de le souiller, de le détruire. Donc on sent vraiment que cette femme est obsédée par son histoire, parce qu'elle raconte même comme quand elle voit des petites filles avec des hommes plus âgés, que ce soit leur père ou n'importe qui, des professeurs à l'école ou dans des excursions, etc. Elle ne peut s'empêcher de tout le temps se poser la question qu'est-ce que se cache derrière cette image idéale. Donc on sent que cette histoire ne la lâche jamais, elle l'a constamment en tête, mais elle explique qu'elle doit apprendre à vivre et apprivoiser l'ennemi. Donc c'est un livre d'une personnalité très très forte.
Oui, tout à fait. Écoute, moi, la forme, le fond, l'écriture. Au fait, j'ai plus rien à rajouter. Je suis dans une contradiction émotionnelle très forte comme lecteur. C'est parce que c'est un livre qui fait mal, mais en même temps, je trouve que le cœur du lecteur, enfin en tout cas moi, est rempli de beaucoup de chaleur, beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour, quoi. Et ça, c'est toujours très fort.
Il y a énormément d'humanité. Et puis, comme tu le disais, et même si ça part par moments un petit peu dans tous les sens, l'écriture est simple, elle est limpide, elle est accessible à tous. Je dirais que les idées sont peut-être plus matière à réfléchir. Le contenu est beaucoup plus profond que l'écriture, finalement, qui est très simple. Alors, nous, c'est un livre qu'on vous conseille pleinement, parce que vraiment, c'est... Et il faut essayer de la voir également lorsqu'elle est intervenue à l'émission d'Augustin Trapenard.
La Grande Librairie.
Alors, on vous souhaite une bonne semaine. Merci, David.
Merci à toi.
Et on se retrouve dans 2 semaines pour un autre sujet. Merci beaucoup.